la Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 23 mars et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
Le brief de l'Écho.
Au programme aujourd'hui, la réserve fédérale américaine augmente une nouvelle fois ses taux malgré la crise bancaire. Emmanuel Macron tente de reprendre la main sur la réforme des retraites alors qu'une journée d'action massive est prévue dans tout le pays. Le groupe Colruyt décide de sortir de l'éolien. Pour quelles raisons? Réponse dans un instant. Je suis Laurent Fabry et vous écoutez le brief.
Le brief, cette info. Dès 7h.
La Réserve fédérale augmente à nouveau ses taux d'intérêt directeurs de 25 points de base. Dans la situation actuelle délicate, le président de l'institution, Jérôme Powell, a voulu se montrer rassurant lors de la conférence de presse hier soir.
Notre système bancaire est solide et résistant. Avec une capitalisation et une liquidité solides, nous continuerons à surveiller de près les conditions dans le système bancaire et sommes prêts à utiliser tous nos instruments pour qu'il reste sain et solide. De plus, nous sommes déterminés à tirer les leçons de cet épisode et à travailler pour empêcher que de tels événements surviennent à nouveau.
Alors malgré les déboires de plusieurs banques, la Fed poursuit son durcissement monétaire, priorité donc à la lutte contre l'inflation. Marc Lambrex est chroniqueur financier à l'Écho. Dans l'édito du jour, il analyse la décision de la Banque centrale américaine.
Alors elle a plutôt choisi la voie du compromis et elle se montre assez prudente pour la suite. Alors il faut quand même dire qu'il y a un stress bancaire qui s'est développé en l'espace d'une dizaine de jours, avec Silicon Valley Bank, avec le Crédit Suisse aussi, et que ce stress bancaire pourrait avoir des répercussions sur l'économie. Dans le même temps, l'écosystème des startups américaines apparaît quand même quelque peu ébranlé, et globalement, c'est la confiance des agents économiques qui pourrait subir le contre-coup de la crise, donc ça nécessite une certaine prudence de la Banque centrale.
Faire entrer l'économie européenne dans l'ère de la circularité, c'est tout l'enjeu du droit à la réparation, présenté par la Commission européenne ce mercredi dans une nouvelle directive. Machine à laver, GSM ou encore télévision, l'idée c'est de permettre aux consommateurs de pouvoir faire réparer une série de biens de consommation plutôt que d'en acheter simplement de nouveaux. Les fabricants de produits seront même obligés de réparer plutôt que de remplacer si la réparation n'est pas plus chère. Cette nouvelle directive veut tendre vers une consommation plus durable, moins coûteuse aussi pour les utilisateurs, tout en créant des emplois dans le secteur de la maintenance. Par ailleurs, la Commission s'attaque aussi au greenwashing. Elle veut faire de l'ordre dans la jungle des labels verts. Il y en a 230 en circulation. La moitié devrait disparaître et la transparence sera de rigueur. Notez qu'un sommet européen se tient à Bruxelles aujourd'hui et demain. La guerre en Ukraine sera une nouvelle fois au centre des discussions entre les dirigeants. Colruyt se sépare de ses éoliennes en mer. Le groupe cède Parkwind, sa filiale dédiée à l'éolien offshore, pour plus d'1,5 milliard d'euros. Et c'est la plus grande compagnie d'électricité du Japon, Gera, qui signe ce chèque. Pour vous donner une idée de quoi on parle, Parkwind a été fondée en 2012 et c'est la plus grande plateforme éolienne offshore en Belgique. Elle a également des participations dans 4 parcs opérationnels situés au large de la côte belge. Simon Souris, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes l'un des journalistes business de l'Écho. Pourquoi Colruyt décide de se séparer de Parkwind?
Colruyt justifie cette cession par 3 grands éléments, 3 grandes tendances qui sont la situation du marché de l'énergie, le Green Deal et les tensions géopolitiques. 3 éléments qui amènent une hausse substantielle de la taille des projets, des risques financiers plus élevés dès les premiers pas, mais aussi une concurrence plus intense entre les acteurs aujourd'hui.
Mais que va apporter cette acquisition d'éoliennes offshore en mer du Nord aux géants japonais ?
Il faut bien comprendre, Gera, c'est une entreprise énergétique d'envergure mondiale qui active sur l'ensemble de la chaîne autour de l'énergie. Ça va de la participation des projets d'exploration dans le gaz naturel jusqu'à la production d'électricité. En fait, Parkwind va lui servir de tremplin dans le renouvelable, un tremplin à l'échelle mondiale, d'abord donc sur les marchés sur lesquels Parkwind est actif, mais aussi sur lesquels Gera est actif, mais aussi demain sur les potentiels nouveaux marchés pour l'énergie renouvelable. Par ailleurs, Gera s'est voulu très clair, hein, il compte continuer à investir en Belgique tout en développant l'équipe, on parle de à peu près 120 personnes, tout ça à partir des bureaux de Louvain, les bureaux existants d'entreprise.
Merci Simon. Après l'annonce de cette session, l'action Colruyt s'est envolée de plus de 13% à la clôture mercredi, tout comme CFE d'ailleurs qui est également très présent dans ces parcs éoliens. Les manifestations embrasent encore la France. Jeudi, un 9e jour d'action contre la réforme des retraites est prévu après plusieurs jours de rassemblements non autorisés un peu partout dans l'Hexagone. Face à la révolte, le président Emmanuel Macron a tenté hier de s'expliquer dans une allocution diffusée en télé.
Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis ? Oui. Peut-être. Et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. Au moment où moi je suis rentré dans la vie active, il y avait 10 millions de retraités. Il y en a aujourd'hui 17 millions. Dans les années 2030, il y en aura 20 millions. Donc oui, il n'y a pas 36 solutions si on veut que le régime soit équilibré. Il ne l'est plus.
Alors vu le contexte, Macron peut-il reprendre la main et entreprendre encore quelque chose pour le reste de son quinquennat ? L'avis de Franceline Beretti, la correspondante en France pour l'Écho.
Alors, Emmanuel Macron, il a évoqué les prochains grands chantiers pour son gouvernement dans l'interview mercredi, mais en fait, toute la question est de savoir comment il va pouvoir faire passer d'autres textes de loi importants, parce que l'opposition, elle est particulièrement remontée, alors ça c'est plutôt classique, mais en fait, il y a des failles au sein même de sa majorité, qui est déjà pas une majorité écrasante. Il y a des députés alliés à Renaissance, donc le parti présidentiel, qui ont critiqué ouvertement la méthode du 49-3. Et tout le monde sait que la première ministre, Elisabeth Borne, elle ne voulait pas non plus utiliser cet outil du 49-3. Ça a largement fuité dans la presse. Et donc la première ministre apparaît comme très affaiblie, comme celle qui fait juste appliquer les instructions d'un président. Un président qui lui est même très très isolé, un exécutif affaibli, et donc franchement ça va pas être facile de reprendre la main.
Et comment la contestation sociale pourrait évoluer dans les semaines à venir ? Va-t-elle s'essouffler ou plutôt se radicaliser ?
Le pouvoir parie plutôt sur le pourrissement de la situation, un essoufflement du mouvement avec la désolidarisation des Français. Mais en fait, cette séquence de la réforme des retraites, elle n'est pas du tout finie, puisque le Conseil constitutionnel a été saisi. Et même si les juristes disent qu'il ne va probablement pas retoquer l'ensemble de la loi, mais il peut se prononcer sur certains points. Et du coup, il faudra revenir dessus. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passera ? On verra. Pour l'instant, l'intersyndical tient, et c'est rarissime en France que les syndicats fassent front commun. Les rassemblements spontanés sont de plus en plus violents, donc il y a des débordements, elles sont aussi violemment réprimées par les forces de l'ordre. Il y a des grèves perlées dans certains secteurs, dans les transports, chez les éboueurs. Donc on peut penser que tout ça, ça va continuer jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel. Et après, on verra ce qui va se passer.
Proximus est dans le viseur de l'autorité belge de la concurrence. Elle a ouvert ce mercredi une instruction sur le possible abus de composition dominante concernant le rachat de l'opérateur indépendant EDP Net. Pour rappel, EDP Net a connu des difficultés financières à la fin de l'année dernière. Proximus, qui était jusque-là l'un de ses créanciers, s'est alors porté candidat à la reprise avec une offre contraignante de plus de 20 millions d'euros. Le problème, c'est qu'avec cette opération, Proximus rachète le dernier opérateur encore indépendant sur le marché. À ce jour, EDP Net exerce ses activités en Belgique et aux Pays-Bas. Il compte environ 46 000 clients pour l'internet fixe et 13 500 pour le mobile. Des dossiers perdus dans les méandres du palais de justice. Alors on n'est pas dans une BD de Françoise Keuten, mais bien dans la réalité. C'est ce qui a causé le report du procès Kefa Invest ce mercredi au tribunal correctionnel de Bruxelles. De quoi évidemment faire enrager les 300 victimes de l'escroquerie. Elles ont perdu au total près de 30 millions d'euros dans cette affaire. Pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, Kefa Invest, c'est une société qui se disait proche du Vatican pour attirer les investisseurs en leur promettant des rendements allant de 6 à 8%. Ça s'est déroulé entre 2007 et 2014 et depuis, l'argent évidemment s'est envolé. Certaines victimes ont été ruinées dans l'opération. Mais voilà, l'avocate du principal accusé n'aurait pas pu préparer la défense de son client car les documents étaient tout simplement perdu. Résultat, pas d'autre choix que de reporter l'affaire au mois de novembre. Bref, encore un épisode judiciaire assez peu glorieux. Vous avez l'impression de ne jamais réellement déconnecter du bureau ? Eh bien, d'après le prestataire de services RH Securex, un quart des travailleurs a le sentiment que leur employeur attend souvent d'eux qu'ils travaillent en dehors des heures, le soir ou le week-end. Et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas rester connectés courent 5 fois plus de risques de faire un burn-out. Le gouvernement fédéral veut limiter les dérives. Avec son deal pour l'emploi, il impose aux entreprises de plus de 20 employés de fixer les modalités pratiques d'un droit à la déconnexion pour le 31 mars. Depuis le Covid, le télétravail est devenu la norme dans beaucoup d'entreprises. Est-ce l'origine de tous nos maux ? Jacqueline Jost est conseillère en prévention pour le bien-être psychosocial chez Securex.
Alors je dirais le télétravail a certainement joué un rôle dans ce contexte-là, mais il n'y a pas seulement le télétravail, c'est vraiment l'évolution de notre société vers un monde vraiment digital, avec aussi notamment le smartphone, avec toutes les applications qui font qu'en fait on est joignable en permanence et partout, même si on est à l'autre bout du monde, on peut consulter ses mails. Et donc l'ensemble de tous ces facteurs fait que le risque aussi d'être connecté trop souvent et trop longtemps est devenu beaucoup plus important.
Alors la question se pose, comment créer un cadre sain en entreprise ?
Ce qui nous semble vraiment important, c'est de ne pas imposer un cadre qui impose, par exemple, la déconnexion stricte. On constate que le risque de burn-out est nettement inférieur chez les personnes qui ont le choix de travailler quand ils souhaitent. Et donc, dans ce contexte-là, on met vraiment l'accent sur l'importance de l'autonomie et de la liberté et de la flexibilité, avec le petit poids d'intention qu'il est important de bien respecter ses propres limites et de mettre ça alors par écrit. Donc ça favorise aussi également l'engagement des collaborateurs par rapport à tout ça.
Hyperconnecté, vous l'êtes puisque vous écoutez ce brief, mais je suis sûr que c'est par plaisir et pas par obligation. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Andy Noiret, c'était à la préparation de cet épisode. On se retrouve demain avec plaisir.
À la Banque Van Breda, vous méritez plus d'équilibre. Plus d'équilibre financier. Plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.